Je vais faire l'extraordinaire de la foi dans l'impossible et dans la tempête. Donc il y a deux. Donc on va faire deux petites lectures. La première, c'est dans l'évangile de Luc. Vous suivez ou vous écoutez. Le principal, c'est d'entendre. Luc chapitre 5 et verset 17. Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés sont pardonnés ». J'arrête volontairement la lecture ici. Les habitués de la Bible savent qu'à un certain moment, Jésus a dit « Pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner », alors il dit au paralysé « Prends ton lit et va dans ta maison ». Voilà, il a pris son lit, il est parti. Mais parlons de la foi. Dans l'Évangile, il y a des gens qui ont peu de foi. Les apôtres. Jésus leur dit souvent « hommes de petite foi, hommes de peu de foi » parce qu'ils ont vu beaucoup et ils ont cru difficilement. Il y a donc des gens qui ont peu de foi et puis des gens qui ont une grande foi. Quels gens ? Des étrangers, des inconnus, parfois même des mécréants, qui ont eu une grande foi dans les difficultés de leur existence. Je pense à cette femme qui était syrienne, donc pas de la religion d'Israël, et qui avait une petite fille qui était tourmentée par un démon, et qui va vers Jésus, qui insiste. Jésus lui a dit une parole qu'il n'a pas dite beaucoup. Jamais, je crois. Femme, ta foi est grande. Il y a donc des grandes fois. C'est-à-dire des gens qui croient tout simplement que ce que le Seigneur dit, il peut le faire. Alors, on revient à notre histoire. Ils descendent le paralysé et la Bible dit Jésus voyant leur foi, voyant leur foi. La foi se voit. À quoi ? Elle se voit dans les quatre porteurs qui vont défaire un peu les fibres ou les tuiles du toit et qui descendent leur ami paralysé par des cordes jusqu'à Jésus. La foi se voit parce qu'ils ont forcé la porte. Ils sont passés par le toit. La porte était encombrée par la foule. Et personne ne leur laissait la place de rentrer. C'est important que la porte de l'Église, qui n'est pas seulement faite de bois, mais l'accueil de l'Église, l'accès à l'Église, soit ouvert à tous. Soit ouvert aux mécréants, aux malades, aux incrédules, aux croyants, à tous. Et là, les apôtres, les gens qui étaient là, ne laissaient pas passer ce malheureux sur son brancard. Et chose étonnante, c'est que personne ne se retournait, ça a dû faire un peu de bruit. Quand quelqu'un rentre dans une église, on entend toujours un peu, ils se sont pas retournés pour voir qui entrait, qui voulait entrer. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Permettez-moi de dire sans critique, ils n'ont pas voulu entendre. Ils sont restés bien en place et l'accès était impossible. La foi, ce n'est pas seulement regarder Dieu. La foi, c'est regarder le monde et les gens avec les yeux de Dieu. Et Dieu voyait cet homme paralysé qui voulait entrer dans la réunion. Alors les quatre porteurs, les quatre ambulanciers, voyant l'obstacle, la fermeture, ils ont pris les grands moyens, des moyens désespérés, des moyens un peu fous, que j'aimerais pas que vous fassiez chez nous, parce que c'est un peu haut. Ils sont passés par le toit. L'impossible de la vie peut susciter en nous la foi. Je pense à ce texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Il a choisi les choses ahurissantes. Un jour, Jésus a dit une parole ahurissante. Il a dit, si vous aviez la foi, vous diriez à cet arbre, un sycomore qui peut être très grand, vous diriez à cet arbre, plante-toi dans la mer, et il le ferait. C'est pas raisonnable. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent à la radio, Michel Onfray pour ne pas le citer, mais qui disent, mais ça c'est pas raisonnable, c'est pas correct, il faut être fou pour dire ça, parce que il dit toujours, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas, rien n'existe. Et voilà que Jésus dit, eh bien, avec votre foi, vous pourriez planter un arbre avec des racines, planté, pas dans la terre, dans l'eau. Tout ça pour nous dire, bien sûr, il y a un sens symbolique, pour nous dire qu'un croyant qui dépend de Jésus, qui a la foi en Jésus, peut prendre racine et tenir dans les circonstances les plus défavorables. Défavorables. Je pense à Joseph de l'Ancien Testament, fils de Jacob. On l'a dénoncé pour ce qu'il n'avait pas fait, on l'a bousculé, on l'a vendu. Ses frères l'ont vendu. Tout est possible. Il s'est retrouvé en prison en Égypte pendant des années, sans avoir fait aucun mal. Milieu défavorable. En Égypte de cette époque, les prisons étaient sous terre. On ne voyait jamais le jour. Et Joseph reste dans la confiance. Les gens ont confiance aussi en lui. Les gardiens de la prison ont confiance en lui parce que c'est un homme qui tient bon dans les circonstances les plus défavorables. La foi, je la vois chez Abraham, qui force Dieu, je dis bien force Dieu à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe, où il y avait des choses abominables, mais aussi où l'on ne prenait pas soin de la veuve, maltraiter les anciens. Et Dieu veut détruire cette ville, et il l'a détruite. Mais Abraham dit, s'il y a 40 hommes bien, est-ce que tu vas détruire? Non. S'il y a 20 hommes bien, non, je ne détruirai pas. S'il y a 15 personnes bien, non, je ne détruirai pas. Il force Dieu à descendre la barre pour sauver Sodome et Gomorrhe. La foi. Je vois la foi dans Moïse. Alors que le peuple d'Israël est passé par la mer Rouge et qu'il se donne à la débauche, le peuple d'Israël se débauche et fait un veau d'or. Et Moïse supplie Dieu en disant « Pardonne, pardonne, pardonne à ton peuple, la foi. » Et bien devant ces exemples et devant tant de briseurs de barrages, de passeurs de toit, quelle est notre attitude à nous? Est-ce qu'avec Dieu, il faut tout juste être prudent, une petite prière pour finir la vie, simplement juste ce qu'il faut pour ne pas se dire mourir comme un chien ou être enterré comme un chien. Quelle est notre attitude devant ce Dieu qui donne à profusion, pas seulement des étoiles, mais des raisons d'être? Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et ce feu, eh bien, c'est la certitude qu'il nous transformera. Il nous transformera, chose impossible. Il transformera notre corps fragile dans un corps glorieux, semblable à son corps. Il nous transformera. Eh bien, la foi, c'est croire dans ce que nous n'avons jamais vu, dans ce qui paraît impossible, dans ce que nous n'avons pas contrôlé, vérifié. On n'a pas d'accès, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de mesure, on n'a rien. Simplement une parole du Christ, je suis venu jeter un feu sur la terre, je vous transformerai. Et voilà, 10 000 choses passagères ont étouffé ce feu, ont éteint ce feu. Et aujourd'hui, je vois partout combien de gens ont abandonné la foi, les églises sont venues dans l'incrédulité. Nos lampes s'éteignent. Aujourd'hui, nos lampes s'éteignent. Le monde s'éteint. L'extraordinaire de la foi, c'est écouter le Christ qui nous dit « Je vous reverrai et votre tristesse sera changée en joie. » Ça, c'est la foi. On ne sait pas comment ce sera après. Mais Jésus dit « Je vous reverrai, vous me verrez et votre tristesse sera changée en joie. » La foi, c'est avoir cet élan de générosité, cet élan d'ouverture, cet élan de service, de bonté pour les autres, sachant que tout ce que nous faisons aura des répercussions dans l'au-delà. Ça, la foi. Chaque pierre que nous bougeons sur terre aura des répercussions dans l'au-delà. Chaque verre d'eau donné sur terre ne sera jamais perdu. C'est ça, la foi. Ça paraît déraisonnable. Tant de choses qui se passent, d'oublier. Tout le monde ne reçoit pas la Légion d'honneur et des choses ont été faites admirables. La foi, c'est dire, si le Christ est derrière cette porte, je vais continuer de frapper. C'est impossible peut-être aux yeux humains, mais je continuerai de frapper. Je pense au tombeau de Lazare, qui est mort, je pense, assez jeune. Le tombeau était fermé depuis 4 jours. Et puis Jésus vient dans le village de Béthanie. Et les sœurs ne sont pas très contentes parce que si Jésus avait été là, peut-être que leur frère ne serait pas mort. Elles lui disent, avec un petit ton de reproche, « Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » C'est un reproche. Mais elles disent à Jésus, « Mais tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais que Dieu te l'accordera. » Confiance devant l'impossible. Lazare sentait mauvais, il se décomposait dans sa tombe. « Mais ce que tu demanderas à Dieu, je sais que Dieu te l'accordera. » La foi devant l'impossible. Ôtez la pierre. Et quand ils eurent ôté la pierre, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Ils l'ont vécu. Nous le savons. Le témoignage est venu jusqu'à nous pour nous dire, derrière des portes fermées, continuez de croire et d'espérer. Je pense à cette femme, je reviens encore à la femme syrienne, libanaise et syrienne à la fois, qui va voir Jésus pour sa petite fille tourmentée, handicapée. Et là, c'est une porte certainement la plus lourde qui est devant elle. Jésus ne l'écoute pas. Jésus ne l'écoute pas. Il continue de marcher. Et elle parle, « Seigneur, secours-moi, ma petite fille est tourmentée, secours-moi. » Et Jésus continue. Et les apôtres disent, renvoie-la, elle nous dérange. Et cette femme, sachant que cette porte fermée n'est pas verrouillée, elle continue de frapper à la porte de Jésus. Elle se jette à ses pieds. Et Jésus lui dit, ta femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Parce qu'elle avait confiance que Jésus, sa bonté était suffisante pour guérir sa petite fille tourmentée. Elle avait confiance, absolue confiance, dans la bonté de Jésus. L'eau ne s'arrête pas devant les obstacles. La foi ne s'arrête pas. L'eau contourne, descend ou monte, mais elle veut passer. Et la foi aussi, rien ne doit l'arrêter. Il nous faut vous, des passeurs de toit, des passeurs de portes fermées. Vous me direz, il faut un petit grain de folie pour tout ça, n'est-ce pas? Vous me direz, on ne peut pas faire quand même n'importe quoi. On ne peut pas exagérer, on ne peut pas faire du spectacle. C'est Dieu qui commande. Hein. Mais je pense que la foi, c'est avoir une conscience de l'infinie grandeur et bonté de Dieu. Aimer Dieu, c'est l'aimer sans mesure. C'est croire en lui sans mesure. Savoir qu'il peut tout faire. Jésus disait, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. La foi devant l'impossible. Le paralysé est descendu, Jésus lui a parlé, il est reparti devant tout le monde, peut-être un peu fier, je ne sais pas, je ne crois pas. Il est parti avec son grabat sous les bras, il est parti guéri. La foi. La foi dans la tempête. Pas simple, hein. Quand ça bouge. Écoutez cette lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 23. Matthieu, chapitre 8. Alors quand on dit tempête, évidemment, on pense toujours au lac de Tibériade, lac de Galilée, la mer de Galilée. Et c'est là que se passe notre action. Je lis l'essentiel. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Donc, elle va couler, inévitablement. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Surprenant, hein ?« J'aurais eu peur, vous aussi. La barque était pleine d'eau. On ne va pas résister longtemps. » Le monde ne va pas résister longtemps à son désordre actuel. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà, le peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Il est difficile de s'en remettre au Seigneur comme un enfant, quand tout bouge. C'est difficile. S'en remettre au Seigneur avec humilité et audace. Il faut du temps pour apprendre cet acte de foi, cette pensée de foi. Il faut du temps. Souvent, le Christ dit « homme de peu de foi ». Alors, nous avons une nursery pour les petits-enfants qui veulent un peu parler. Là. On va vous montrer, si vous voulez. Hein? Je pense que c'est bien d'entendre cette parole de Jésus, homme de peu de foi. C'est un peu une réprimande. Mais c'est avec ces réprimandes-là que nous pouvons grandir. Savons-nous écouter et méditer les réprimandes du Seigneur aux apôtres? Il les adresse aussi à nous, hommes de peu de foi. Parce que, voyez-vous, notre vie ressemble au lac de la Galilée, avec ses remous, sa tranquillité, ses tempêtes. Tout ça, c'est la vie, c'est inévitable, on ne peut rien faire. Mais il faut réfléchir sur ces histoires du lac de Tibériade, réfléchir sur les apaisements que le lac a vécu, ses agitations, et quelle attitude les apôtres ont eue quand le lac était déchaîné. Ce qui est rassurant, c'est que Jésus était dans la barque. S'il est là, on ne peut pas couler. Impossible. Quand on sait qui est Jésus, d'où il vient, pourquoi il est là, où il va, que fait-il, on ne peut pas couler. S'il est là, dans votre vie, on ne peut pas couler. Il est dans la barque, il est avec vous. Et les épreuves ne pourront pas excéder, dépasser vos forces. Le Christ apaisera vos tempêtes quand il le voudra, comme il le voudra. Le fait qu'il soit là doit nous donner une sécurité absolue. Le Créateur du monde dort à côté de moi, dans la barque. Sécurité absolue qui doit me dominer, me guider. Peut-être que les apôtres auraient pu dire, mais où es-tu Seigneur? Mais je suis dans la barque. Et peut-être que nous, quand nous passons des moments de tempête, santé déficiente, deuil qui nous arrache à un bien-aimé, accident, etc., nous disons, nous pourrions dire, mais où es-tu Seigneur? Où étais-tu? Où étais-tu quand cela m'est arrivé? Mais le Christ pourrait nous dire, j'étais dans ton cœur, j'étais dans ta barque et je te tenais. Je tenais celui qui est parti peut-être, je tenais ta santé. Je pense qu'une tempête peut être une manière pour le Seigneur de nous visiter. Souvent dans les évangiles, le mot « visiter » revient. Jésus disait à la fin de sa vie, « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par Dieu. » Et je pense que les tempêtes de la vie, on peut les comparer à des visitations de Dieu. Comme un enfant qui souffre par rapport aux trois autres qui vont très bien, s'il souffre, l'attention des parents sera encore plus sur lui, l'enfant souffrant. Et je pense que les difficultés intérieures que nous vivons tous, les difficultés extérieures de nos vies, ce sont certainement des temps de visite du Seigneur qui ne nous abandonne pas même un instant. Et Dieu peut nous visiter même dans nos temps de somnolence spirituelle où l'on dit, oh, à quoi bon? Ça sert à quoi? On n'a pas de preuve. Ça, c'est de la somnolence spirituelle, mais le Seigneur peut nous visiter dans ces moments-là. Quand les trois apôtres étaient autour de Jésus qui allait mourir, ils dormaient, les apôtres. Là, ce n'est pas Jésus qui dormait, ce sont les apôtres. Et Jésus dit à l'apôtre Pierre, son premier apôtre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure avec moi. » Ce qui veut dire, « Je suis là, Pierre. Je suis près de toi dans ce moment difficile de Gethsémané, le don de la vie de Jésus. Dans les temps où l'on manque de goût pour Dieu, où on ne pense pas à Dieu, Dieu, lui, ne réplique pas en disant « Je ne pense pas non plus à vous ». Il est là, dans la barque. Il nous visite. Et quand une lecture de la Bible, d'un texte, une prédication, méditation nous remet en cause, nous bouscule dans nos habitudes, c'est une visite du Seigneur. Et quand quelqu'un passe dans notre vie, croise notre vie et nous apporte une consolation dans un chagrin, c'est une visite du Seigneur. Il nous console à travers la consolation des autres. Donc dans la tempête, ayons, ce n'est pas un ordre, nous pouvons avoir un sentiment de sécurité. Et la foi, là, elle s'épanouit. Mais que veut le Seigneur à travers ces tempêtes? Pourquoi a-t-il permis que la barque soit pleine d'eau et qu'elle menace de couler? Dans la tempête, il y a un appel à retrouver le harcèlement, la prière. Parce que dans la prière, on dort un peu. Et quand on fait la prière tard le soir, on s'endort sur sa prière. Et le matin, on n'a pas le temps. Il y a midi, si vous saviez. C'est un appel à réveiller notre prière, une prière qui harcèle, vous comprenez l'expression, qui insiste, qui persévère. Vous savez, nous ne faisons pas d'illusions. Il faut être pressé. Je ne dis pas pressé par le temps, mais pressé, bon, je vais vous dire oppressé, voilà. Il faut être oppressé pour retrouver la prière. J'ai vu des gens venir à moi faisant des kilomètres. Un jour, une dame est venue depuis Orléans, en disant « Je viens vous voir parce que j'ai un cancer et je voudrais que vous priez pour moi. » Elle avait fait 200 kilomètres, je ne sais plus, j'étais en Normandie à l'époque. Retrouver la prière de persévérance. Je pense à Jaïrus, qui n'était pas du clan de Jésus, un homme de la synagogue, mais pas du clan de Jésus. Et Jaïrus, sa petite fille, elle dépérit et elle meurt. Et Jaïrus, ce chef religieux, honoré, honorable, il va déranger Jésus. « Viens vite, ma petite fille est à l'extrémité. » La tempête nous met en route. Ils ont réveillé Jésus. Réveille-toi. Réveillons Jésus pour notre monde devenu imperméable à la foi. Réveillons Jésus pour nos souffrances dont les autres n'ont que faire, qui n'intéressent personne, mais ça intéresse Jésus. Alors voyez-vous les leçons de la tempête? Sécurité absolue, il est là. Attention, il va faire quelque chose. Prière et autre chose. Ils ont appris quelque chose dans la tempête, je vais finir là. Les vents lui obéissent, pas à moi. Les vents lui obéissent, la mer, l'eau, les vagues lui obéissent. Ce qui veut dire, il est souverain, maître de tout, tout. C'est une leçon pour la foi. Alors, on peut tout attendre de lui. Quelque chose va donc changer chez les apôtres. Ils savent maintenant qu'ils ont affaire au plus grand, au plus fort, au plus bon. Et Jésus a fait ce miracle à Cana. Il est dit, il a fait un miracle devant les apôtres. Il a changé l'eau en vin, encore de l'eau, l'eau en vin. Il a fait le miracle devant les apôtres. Ici, il a fait un miracle pour les apôtres. C'est différent. Nous avons besoin que Dieu fasse des miracles pour nous. Et les apôtres, je pense qu'ils ont pu dire après, il a fait ça pour moi. Et c'est beau quand on dit ça. Il a fait ça pour moi. Pas seulement devant moi, me laissant un peu spectateur en fait. Mais il a fait ça pour moi, pour me secourir. Et une reconnaissance nous lie à Jésus. On est reconnaissant. Et on va suivre Jésus. Comme Bartimée l'aveugle a suivi Jésus dans le chemin, le reste de sa vie. Le confort est une contagion, mes amis. Il vous faut ceci, il vous faut acheter ça, il faut acheter ça. L'indifférence est une contagion. Aujourd'hui, on n'ose plus parler de Dieu, on a l'impression que on sort d'une autre planète. C'est une contagion, l'indifférence, le quant à soi, chacun pour soi. Mais tout ça, ça nous a éloignés de Dieu. Et voici, une tempête s'est levée. Et nous avons tourné nos yeux vers le Christ. Et le Christ nous a réconfortés, parlé, pardonné. Ayons la foi. Ce n'est pas un ordre. Je me mets dans la barque avec vous. Et on a tous nos moments où on se dit, est-ce possible? Est-ce que ça va aller? Est-ce que Dieu peut faire? Mais ayons la foi, tout est possible à celui qui croit. Je vous cite une parole de Lewis, qui était un chrétien protestant anglais, et qui disait, la tactique du diable, c'est de nous donner la peur du silence. Parce que le silence, ça nous met face à nous. Il paraît que dans le silence total, on entend notre cœur qui bat. Toum-toum, toum-toum. Ça fait peur, hein? On ne veut pas trop entendre tout ça. On ne veut pas entendre tout ce qui bouge au fond de nos âmes. Donc, je répète et je conclue, la tactique du diable, c'est de nous donner la peur du silence. Alors il va remplir le monde de vacarme, afin de nous éloigner de l'éternité et de cet instant à vivre au présent, face à Dieu, à côté des autres. J'aime bien cette église parce qu'elle est silencieuse. Pourtant, il passe parfois beaucoup de monde dans la rue, mais c'est toujours calme, silencieux. Ça nous invite à écouter notre cœur. C'est difficile. Hein? Croyez devant l'impossible, l'impossibilité. Croyez dans les tempêtes. La foi, c'est croire, faire confiance. Nous prions. Seigneur, nous sommes dans la barque avec toi. Nous sommes sur la civière avec le paralysé de Capernaum. Nous sommes devant toi sous tes regards comme cet homme, nous sommes devant toi comme les apôtres. Ils ont eu la foi qui permet les prodiges de Dieu, l'approche de Dieu, l'attirance de Dieu. Donne-nous la foi, Seigneur. Les apôtres t'ont dit un jour, augmente-nous notre foi. Mais nous, arrivés à la fin des siècles, nous voudrions plutôt te dire, donne-nous la foi, afin que dans les événements les plus difficiles à vivre, que nous soyons fermes, attachés à toi, nos mains dans tes mains, nos pieds dans l'empreinte de tes pas sur le chemin. Guéris nos maladies, console nos deuils, réconforte nous dans nos tristesses. Au nom de Jésus, Amen.